Et bonjour les amis, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, écoutez une très très grande nouvelle. La messe du mercredi décembre, donc la messe, le mercredi des cendres, pardon, la messe qui marque l'ouverture du carême pour nous les chrétiens, a été un succès inédit et absolu. Dans les paroisses de France, ça a même été traité médiatiquement, c'est dire si le phénomène a été impressionnant. Vous savez que depuis quelques années, vous avez comme ça des signaux, des soubresauts d'un retour de la jeunesse française à la spiritualité. Vous avez un record de conversion des adultes au catholicisme. Vous avez un regain d'intérêt pour l'église orthodoxe en France, ce qui est une très bonne chose, hein. L'église historique française, c'est le catholicisme. Mais vous pouvez arriver au Christ par l'orthodoxie, par le protestantisme. Moi, évidemment, je défends ma chapelle, qui est le catholicisme, pour des raisons de cohérence historique. Mais je suis très, très content qu'il y ait des jeunes Français qui trouvent le Christ via le protestantisme ou via l'orthodoxie, qui ont leur part de noblesse et leur part de... Même si vous savez qu'historiquement, je reproche énormément aux protestants, mais ils ont leur part de mérite actuellement à recristianiser le monde. Vous savez que l'élection américaine n'a été possible et la véritable révolution qu'ont connue les États-Unis récemment n'ont été possibles que par un travail de fond et de politisation par l'adhésion à la Bible des protestants américains. Donc on ne peut pas leur enlever ça. Voilà, j'ai beaucoup de choses à reprocher historiquement aux protestants, mais on ne peut pas leur enlever le fait que les protestants ont quand même réussi ce coup de maître et ils vont nous éviter une troisième guerre mondiale puisque Trump a décidé de siffler la récré et de dire aux mondialistes qu'ils allaient se mettre leur guerre fratricide au cul, ce qui est une très très bonne chose. Donc ça, on le doit directement aux protestants américains. Donc vous voyez, moi qui suis protestovore, je suis quand même obligé de reconnaître que en cela ils ont fait quand même un gros coup. Et nos amis orthodoxes, donc qui sont une des églises historiques, hein, apostoliques, hein, et ceux-là connaissent aussi une croissance de fréquentation, et c'est une très bonne chose. Voilà, moi j'ai absolument rien contre l'église orthodoxe, hein. C'est une très très bonne chose qu'il y ait des gens qui trouvent un chemin vers Dieu via ces formes de spiritualité. Voilà, après moi évidemment je suis catholique, donc je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de l'église catholique qui est malheureusement un petit peu en souffrance en ce moment parce qu'elle a été particulièrement attaquée, mais c'est justement parce que c'est l'Église qui est la plus attaquée, que c'est celle qu'il faut le plus défendre, si vous voulez mon avis. Voilà. Donc je vous enjoins, si vous êtes français, à rejoindre l'Église historique de vos ancêtres, qui est l'Église catholique, tout simplement. Et ça a été fait par une part des Français qui, donc, je l'ai appris par un article sur Le Figaro. Donc, pour vous dire que, vraiment, si Le Figaro en parle, c'est que parce qu'on est dans une société qui est profondément antichrétienne. Donc, pour que la presse mainstream finisse par dire « oui, il y a un retour, il y a une soif de catholicisme chez les jeunes, c'est qu'il s'est quand même passé quelque chose. Donc, voilà, c'est une très, très bonne chose. Je pense ne pas y être pour rien. Je pense que mon travail, entre autres, hein, parce qu'on est beaucoup à essayer de recréer christianisé sur Internet. Je pense au frère Paul Adrien qui fait un travail aussi qui est très très important auprès d'un public que moi je touche pas forcément et moi qui fais le travail que je fais auprès d'un public que lui ne touche pas forcément. Donc c'est une très très bonne chose. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a l'abbé Raffray, il y a plein d'autres gens comme ça qui... et puis des gens de terrain, hein. Il n'y a pas qu'Internet. Hein. Le christianisme, c'est aussi le terrain. Je pense à l'abbé Malassagne que je salue. Voilà. Et à tous ces abbés qui ont croisé mon chemin et qui font que le catholicisme, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux, continue à vivre envers et contre tout dans un pays et dans un siècle qui lui est particulièrement hostile. Quand je parle de pays hostile au catholicisme, je parle de la République, je ne parle pas de la France historique, je parle du régime qu'il occupe. Donc voilà, ce travail finit par payer. Et puis vous savez, il y a un truc qui se passe, hein, c'est que quand vous êtes en enfer... Il y a deux solutions. Soit l'enfer vous consume, et il y a une grande part de la jeunesse qui a été consumée par l'enfer et qui finit complètement déspiritualisée, en déshérence, comment on pourrait dire, déprimée, mais au sens médical du terme, hein, parce que c'est une maladie, la dépression, une vraie maladie clinique, hein, avec de véritables symptômes observables. Vous avez des gens qui sont malades de dépression parce qu'en réalité, au fond du fond, quand vous creusez, ils sont malades de ne pas avoir Dieu dans leur vie, de ne pas avoir de sens dans leur vie. Et le sens dans la vie, c'est ce qui vous fait vous lever le matin avec des perspectives qui vous donnent envie de progresser, qui vous donnent envie d'évoluer. Sans aucune perspective, si ce n'est le suicide civilisationnel, vous finissez par fabriquer des individus qui sont extrêmement dysfonctionnels, qui sont autodestructeurs et qui tentent d'emporter les gens qui vont bien et le décor dans leur destruction. Et ça, ça porte un nom, ça s'appelle le gauchisme. Voilà. Si vous voulez, ce qui touche, la maladie qui touche les gauchistes, c'est d'être dans une société qui ne leur offre aucune perspective de beauté, de réalisation personnelle, d'espoir. Et vous fabriquez des gens extrêmement dangereux pour eux-mêmes et pour les autres quand il n'y a plus rien à attendre de la vie. Voilà, on est une espèce qui a été codée et fabriquée pour la survie. Si la survie n'est plus nécessaire et qu'elle devient une espèce d'automatisme sans idéal, sans fonction, c'est terrible, quoi, parce que le rythme cardiaque n'existe que pour qu'on finisse par aller parler à telle gonzesse, par bâtir telle cathédrale ou par peindre tel tableau. Voilà, ça je l'ai compris récemment en allant visiter, enfin je l'avais compris depuis longtemps, mais ça m'est apparu encore plus clairement récemment en allant visiter le patrimoine de Tolède et plus largement en me rappelant de tout le patrimoine que j'ai visité. Et c'est vrai que tout ça, on le doit à quoi ? On le doit à des hommes qui avaient soif d'idéal, qui avaient soif de beauté, et qui ont donné cette beauté, alors aux anciens dieux, dans le cas des païens, et aux dieux uniques et éternels, dans le cas des monothéismes. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui a porté notre société, ça me semble évident. Et aujourd'hui, tout mouvement patriote qui ne met pas Dieu au centre de sa... Tout mouvement patriote qui ne met pas Dieu au centre de sa politique est un mouvement patriote fantoche. Voilà. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut l'affirmer. Je vous le répète parce que je veux que ça rentre dans votre crâne. Aujourd'hui, il n'y aura point de salut sans vraiment cet accent qui soit mis sur la foi, sur ce qu'elle a traduit historiquement et sur ce qu'elle traduit organiquement sur les individus pour leur éviter de devenir des énormes merdes, en fait. Hein, voilà, parce que nos sociétés occidentales en sont remplies. Je vais pas vous décrire tout le panel, mais très souvent, dans toutes les merdes que vous rencontrez, il y a derrière un type qui ne croit en rien. Mais à tous les niveaux, je parle pas uniquement que du gauchiste, du rasta blanc, de la racaille, ou... Non. C'est aussi ce mec en doudoune, sans manche, avec une chemise gante, d'accord, et une montre Baume et Mercier, vous voyez. Ce genre de fils de pute, hein. J'ai rien contre Baume et Mercier, hein. Mais voilà, c'était pour vous donner l'exemple. Ce genre de fils de pute sont aussi... Faut pas croire, hein, le manque d'adhésion à Dieu ne fabrique pas que des merdes économiques et physiques. Ça vous fabrique aussi des merdes fonctionnelles. Parce qu'il y a dans nos sociétés modernes des merdes fonctionnelles. Je peux vous en décrire tout un panel. Voilà, ce que j'appelle un peu mesquinement le vendeur d'assurance, vous voyez. Alors, encore une fois, j'ai rien contre les vendeurs d'assurance. Non, je suis fâché parce que quand j'avais 20 ans, je voulais assurer mon domicile. Et en fait, il y avait un fils de pute qui m'avait sorti un devis à... Et je m'étais dit, putain, mais je veux juste que ma maison ne brûle pas. Et le mec me proposait de payer 170 euros par mois pour qu'elle brûle pas. Tu vois, il y avait un peu ce côté-là. Donc voilà, ça m'énervait. Je le voyais pionner sur son ordinateur. Je sentais que ce mec-là n'avait jamais réalisé de travaux physiques. Ça me stresse, hein. Avec l'âge, c'est quelque chose qui me stresse. D'ailleurs, c'était une constante chez les anciens. Quand t'étais pas dégourdi, ça allait stresser. Il te regardait, il plissait les yeux, il soufflait les mecs. Hein. Parce qu'en fait, il constatait qu'on pouvait rien faire de toi. Puis tu leur faisais surtout penser à une énorme femme. C'est-à-dire qu'en fait, les types, hein, ils acceptaient que les femmes ne fassent pas de travaux physiques parce qu'elles faisaient des enfants, parce qu'elles faisaient de la couture, hein, parce qu'elles tenaient la maison. Et c'était un boulot à part entière. Hein. Je veux dire, la femme au foyer, elle portait le monde sur ses épaules. Hein. Et il n'y a rien de plus respectable que ça. Hein. Mais du coup, si tu es faible comme une femme, mais que tu ne t'occupes pas du foyer parce que tu restes quand même un homme, bon, et ben en fait, t'es une merde. Voilà. Donc les anciens, ça les stressait. Quand ils sentaient que t'étais pas capable, si tu veux, de faire des trucs simples, changer une ampoule, regonder une porte, des trucs comme ça, ils avaient comme ça ce plissement de Dieu qui voulait dire, alors en fonction du niveau de plissement de Dieu, et si par-dessus ça soufflait, c'était le niveau de fils de puterie. Les yeux écarquillés, c'est putain, t'es pas doué. Les yeux écarquillés et ça souffle, c'est putain, t'es pas doué, t'es vraiment une merde. Les yeux plissés en te regardant et en soufflant, là, c'est vraiment waouh, t'es vraiment un énorme fils de pute. C'est... Waouh, j'ai vraiment envie de te mettre des, j'ai vraiment envie de te mettre des coups dans des endroits vitaux, tu vois. J'ai envie d'avoir un truc lourd dans les mains et de viser les cervicales, tu vois, pour que ça fasse des flashs blancs quand on te tape. Donc c'est vrai qu'on a, on a une société aujourd'hui avec la déspiritualisation qui a fabriqué des zombies. Qui errent comme ça en recherche de consumérisme. La bêtise a vraiment gagné un terrain. Il y a vraiment beaucoup de teubés aujourd'hui. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de teubés. Et ça commence à être un peu compliqué de... Je pense, pour plein de gens, d'être dans cette société qui est régie par, d'un côté, le consumérisme et de l'autre, l'abandon de soi, la veulerie, le laisser-aller, les plaisirs égoïstes, le manque de perspective. C'est vraiment une société pas rigolote, quoi. Voilà. Donc il y a cette soif de retour à la chrétienté, et c'est une très, très bonne chose. Récemment, donc, je réfléchissais à la disparition, parce que... il y a souvent des gens qui m'envoient des messages en me disant « Putain, t'as vraiment une élocution qui est rigolote, tu mets de l'énergie dedans et tout. » Et bon, alors c'est le côté méridional, c'est le côté sud-ouest, mélangé à la latinité. Et c'est vrai qu'on est extrêmement porté vers l'oralité et la théâtralité. C'est des questions de caractère et de tempérament. Alors que les Européens du Nord, même s'ils ont leur côté, ils ont aussi leur côté lyrique, ils ont socialement... plus le culte de la, voilà, le culte de la discrétion, de la méthode, de bon. Et c'est vrai que je me rends compte, quand je vois les jeunes aujourd'hui parler sur les réseaux, que c'est très, déjà ils sont très semblables les uns aux autres. C'est du en vrai, en mode, genre. Et c'est nul, en fait. Ils ont vraiment des tics de langage, on en a tous, hein. Mais, et moi, a fortiori, les tu vois, les en fait, il y en a plein mes podcasts. Mais eux, ils ont en plus un manque de vocabulaire. Il y a un manque d'imagination. Il y a vraiment un manque d'emphase. Ils sont pas exactement dans ce qu'ils font. Ils sont dans la perpétuation et dans l'imitation de choses qui sont elles-mêmes des imitations de gens qui ont imité à leur tour. Et c'est vraiment des vies désincarnées. Et des discours et des manières de faire qui sont extrêmement désincarnés. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus absents d'eux-mêmes. Voilà, je trouve, moi, qu'ils sont de plus en plus absents d'eux-mêmes. Il y a de plus en plus une dimension de... Comment vous expliquer ça ? Il y a de plus en plus une dimension d'effacement, finalement, de la vie intérieure pour la vie sociale exposée. Voilà, pour la vie que l'on montre sur les réseaux, pour la vie... Donc t'as des mecs extrêmement tristes, extrêmement déprimés, qui vont faire un TikTok en faisant la voix d'un manga. Voilà, ils vont s'enregistrer et puis après ils vont se masturber 3 ou 4 fois. Ils vont aller sur Instagram, ils vont scroller comme des débiles mentaux. Ils vont aller se coucher, ils vont mettre 5 heures à s'endormir parce que la lumière bleue. Après, ils se réveillent le lendemain matin et ils vont manger des œstrogènes dans leur kebab. Enfin, il y a vraiment, ou dans leur Five Guys, ou leur malbouffe Subway, ou ce que tu veux, il y a vraiment un côté, je ne vis plus pour moi à l'intérieur, je vis pour démontrer que je vis à l'extérieur. Voilà. Et aujourd'hui, les preuves de vie se donnent par... Il y a vraiment un changement de paradigme. Et ça, c'est très, très lié, évidemment, au numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les individus sont liés les uns aux autres par le numérique, en fait. Et le numérique vous permet de remodeler la plastique sincère de votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez la maquiller. Vous pouvez tricher avec votre quotidien, tout simplement en ne choisissant que le positif et en le mettant sur les réseaux. Évidemment que quand tu as mangé pas assez de fibres et que tu passes 1h30 aux chiottes à démouler un cake, tu n'en fais pas une story Instagram. Tu es pas là en train de poster les moments où tu grattes la vasque avec la brosse à chiottes parce que t'as laissé une pastille sur le bord. On va être honnête. La seule chose qu'on met, mais moi le premier, la seule chose qu'on met sur Internet, c'est les choses positives pour avoir de la validation, ou dans les meilleurs des cas, et c'est aussi une bonne chose, pour inspirer, pour donner envie d'eux. Voilà. Quand moi je vous montre les sorties que je fais avec Maximus, c'est pour vous donner envie de mener cette vie-là. Quand je me montre en train de chasser, c'est pour vous donner envie d'essayer la chasse. Quand je vous fais des stories sur le moment où je vais à l'église dimanche, c'est pour vous donner envie de le faire. Voilà. Donc en fait, il peut y avoir une part de positif, mais il faut toujours avoir, à l'esprit que ce que l'on montre sur les réseaux sociaux, ce n'est que qu'une partie fragmentée de nos vies et qu'en fait, en réalité, ce qui se joue à côté des réseaux sociaux est tout aussi important, voire beaucoup plus important. Quand je dis tout aussi important, c'est dans mon cas à moi, où mon métier passe par la communication sur les réseaux. Donc moi, c'est important que je fasse pas n'importe quoi avec ce que je montre sur Internet et que ça serve d'inspiration. Voilà. Mais peut-être que vous avez moins d'exposition, ou en tout cas vous avez une exposition auprès de votre famille ou quoi, et dans ce cas-là c'est moins important. Ce qu'il y a de beaucoup plus important, c'est la vie à côté que vous menez. Et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans l'optimisation de ce qu'on montre à la communauté via nos réseaux sociaux que ce que nous vivons vraiment pour nous-mêmes. Moi, il y a des moments de ma vie où j'étais tout seul à voir ce que je faisais et c'était stylé. Moi, je fais partie de cette génération qui a fait des combats de boxe qui n'ont pas été filmés. Parce que à ce moment-là, tu pensais pas à dire à un pote à toi, déjà la téléphonie mobile était quand même moins répandue, et t'étais pas là en train de t'étais pas omnibulé par le fait de dire à un tel vas-y filme mon combat. Tu voulais vivre ce combat, tu voulais le finir pour pouvoir ensuite être meilleur au prochain. Donc on était dans une visée qui était une visée de réalisation personnelle. On n'était pas dans une visée de regarder le combat que j'ai fait, regarder je suis monté sur le ring, même si c'est plaisant hein, de dire ça, parce que tu te dis, bon, c'est gratifiant, je l'ai fait. Mais on était moins dans ce truc-là. On n'était pas dans se faire mal pour pouvoir dire qu'on s'est fait mal. On était dans se faire mal pour pouvoir se dire à soi-même qu'on s'était fait mal. Donc la démarche a été complètement différente. On était beaucoup plus dans un truc de « il faut que je vive ça pour que mon estime de moi grandisse, pour que mon expérience grandisse, pour que mon parcours de vie soit augmenté de quelque chose de valorisant. » Et ça passait par tel voyage, telle réalisation sportive, telle conquête amoureuse, telle bonne soirée que vous alliez passer avec vos amis, tel souvenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, les individus étaient quand même beaucoup moins malade parce que, in fine, cette volonté de se nourrir l'intérieur de soi, hein, de se nourrir l'âme, de se nourrir de s'épaissir personnellement, c'était quelque chose qui avait à voir avec la spiritualité. C'est-à-dire que même si les gens étaient déchristianisés, il y avait, cela dit, une vie intérieure parce qu'il y avait une volonté de dialoguer avec soi-même. Et on dialoguait avec soi-même en prenant le soi-même et en le confrontant à des choses, mais pas pour le dire à l'extérieur, pour se le dire à soi-même. Et la différence était fondamentale. Je suis amusé parce que, par exemple, bon, vous savez que dans les podcasts, je dis aux jeunes, allez à la boxe. Bon, il y en a, ils ont fait un cours de boxe et ils m'envoient une photo avec leurs nouveaux gants qu'ils se sont achetés. Fais-moi une photo dans 3-4 ans. Ça voudra dire que tu as tenu le coup et que la démarche, elle est allée au-delà des réseaux. Parce qu'en fait, quand tu fais une séance de boxe, tu te prends en photo, tu te dépêches de le mettre sur ton Instagram pour dire « Regardez, je m'y suis mis. » Et s'il faut, deux semaines après, tu as arrêté parce que c'était trop dur. Bon, mais ça veut dire que tu n'as pas mérité ta séance de boxe. Ça veut dire que tu ne l'as pas mérité. Ça veut dire que tu n'as pas compris à quoi ça sert. Tu feras une photo dans 4 ans. Tu feras une photo avec tes gants explosés quand tu auras pété deux, trois paires de gants parce que tu les auras explosés contre le sac. Là, tu pourras prendre une photo parce que là, effectivement, tu auras passé suffisamment de temps à faire cette chose-là pour qu'elle t'ait nourri avant de nourrir ton ego sur Internet ou nourrir les attentes des gens qui sont autour de toi dans le cas d'un influenceur. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration pour le Raptor, parce que figurez-vous que ça fait plusieurs années qu'il s'est mis à l'anglaise de manière très sérieuse, de manière récurrente, et il a exactement la bonne démarche. C'est-à-dire qu'il ne se filme pas, il n'en parle pas, il le fait. Et il a conscience, parce qu'en fait, il a déjà fait le processus pour la musculation, il a déjà fait le processus pour la musique, il a déjà fait le processus pour la création d'entreprise. Et ça, c'est vraiment un exemple qu'il faut prendre. C'est-à-dire que, au lieu d'en parler, au lieu de se montrer en train de le faire, il le fait, et quand il a les réalisations, il vient vous voir et il vous dit, voilà, je suis là où j'en suis, et je peux témoigner avec pertinence de ce que c'est que de se mettre à faire ça, parce que j'ai passé les premiers moments difficiles, je me suis accroché, j'ai continué quand c'était moins intéressant, parce qu'il y a des paliers, il y a un moment où tu stagnes. Tu vois, quand l'apprentissage de la boxe, les premiers mois, la première année, les deux premières années, les trois premières années, c'est génial parce que effectivement, tu as des progressions constantes. Mais il y a un moment où tu stagnes et ça se joue au millimètre. Et il va falloir te la coller plus durement. Il va falloir faire des sparring avec des mecs un peu plus difficiles. Et je trouve que c'est la très très bonne mentalité. C'est une très très bonne mentalité qu'il a là, qui est d'attendre d'avoir la légitimité pour parler. Et notre époque souffre énormément. Qu'il y ait beaucoup de gens qui aient une illégitimité à parler parce que il n'y a que un parcours de superficialité. Et la superficialité est en train de tuer le vieux monde. Si vous réfléchissez bien, l'ancien monde, celui qu'on professe, qu'on soit fan de médiéval, qu'on soit fan de Napoléon, qu'on soit fan de 19e siècle, qu'on soit fan des années 80, l'ancien monde dont on parle, on se réfère toujours à des choses qui avaient de la substance intrinsèque. Elles avaient une force et une valeur intrinsèque. Pas une force et une valeur uniquement symbolique ou uniquement transactionnelle. Elles avaient une valeur intrinsèque parce qu'elles ramenaient à des valeurs qui sont des valeurs immuables historiquement. Les valeurs classiques, c'est-à-dire le sacrifice, la persévérance, la minutie, ça, ce sont des valeurs qui ne sont pas fluctuantes. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, par exemple, s'il me faut 50 jours pour fabriquer une dague ou une lampe ou une commode ou un meuble, d'accord, de marqueterie, c'est que ça vaut vraiment 50 jours de travail. Donc, il va y avoir à la fin un résultat qui normalement montre la preuve qu'il fallait 50 jours de travail. Et c'est ça qui lui donne la valeur à l'objet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, ça c'est qu'on soit en 2025, qu'on soit au Moyen-Âge, qu'on soit dans l'Antiquité romaine, c'est une valeur constante. C'est-à-dire beaucoup d'énergie dépensée pour arriver à faire quelque chose donne la légitimité à ce quelque chose. Bon, sauf si tu as dépensé beaucoup d'énergie à te branler 18 fois par jour pendant 20 ans. Ça n'aboutit sur pas grand-chose. Bon, donc il y a aussi la question de la noblesse de ce que tu travailles. Et là, on rentre dans des considérations qui sont peut-être plus de l'ordre du goût. Voilà, pour certains, la noblesse sera de s'être sculpté un corps année après année, de s'être sculpté un parcours, de s'être sculpté une morale. Il y en a d'autres, ce sera plus l'artisanat matériel, mais en général, les deux sont corrélés. C'est-à-dire que l'énergie que l'on a mis à faire de belles réalisations matérielles, en général, on nourrit votre âme. Et inversement, les choses qui ont nourri votre âme vous poussent à aimer les choses qui ont de la valeur, de la véritable valeur matérielle. Pas de la valeur matérielle parce que c'est à la mode et que la société vous dit ça, c'est génial. Non. De la valeur matérielle parce que vous prenez en considération le travail et l'élévation spirituelle qu'il a fallu pour arriver à ce niveau d'excellence. Voilà. Et ça, c'est ce qui se passe quand vous arrivez, vous visitez une cathédrale. Et je trouve que cet esprit est quelque chose qui manque à notre société. Et je vous parle du Raptor à dessein parce que quand on regarde son parcours, donc il y a eu de la maestria dans la musique, il y a eu de la maestria dans le sport, il y a eu de la maestria dans l'entrepreneuriat, il y a eu de la maestria dans la fabrication du foyer. Et ça procède d'une seule et même source qui est un esprit de volonté, de légitimité. Donc un esprit très dur avec soi. C'est parce que je suis dur avec moi, que je peux être dur avec les autres. C'est parce que je suis dur avec moi-même que je finis par infléchir les courbes naturelles. La courbe naturelle, vous la connaissez. C'est d'avoir un short Kipsta qui pue la pisse, de pas l'avoir changé depuis 4 jours parce que t'es bien dedans, t'es bien dans ton jus et t'as pas envie de mettre un slip qui va te comprimer les couilles. C'est ça. La pente naturelle, c'est que le réconfort immédiat que va t'amener le fait d'avoir fumé du chichon ou d'avoir bu un coup, l'espèce de léthargie dans laquelle ça te met, l'espèce de matelas moelleux dans lequel ça te met dans l'immédiat, te met dans un matelas dégueulasse sur la longue. C'est-à-dire que ta libido baisse, tu n'as plus de testo, tu deviens une merde, ton estime de soi, elle est éclatée au sol. Pourquoi ? Parce que tu sais au fond de toi que tu as toujours pris le chemin de la facilité. Tu vois, il y a des matins, je me lève, je suis fatigué. J'ai pas envie d'aller à la boxe, me faire bomber la fif par des mecs qui ont 20 ans de moins que moi. Mais j'y vais parce qu'il faut que je me maintienne. Il faut que j'ai du maintien. Il faut que je puisse me regarder le soir dans la glace. Quand je vais à la salle pour entraîner Jules, ok, et que je fais une séance avec lui, et que j'ai 40 balais, que je fais 100 kilos, que moi je peux pas taper fort parce qu'il est plus léger que moi, mais que par contre lui il peut taper plus fort parce que je suis plus lourd que lui, et en plus il peut aller vite parce que c'est un léger, enfin c'est un moyen quoi, le mec fait 75 kilos, il peut m'asmater la gueule, moi je suis plus lourd, j'ai pas de raison de m'asmater la gueule, donc ça me rajoute un pic de difficulté, je préférerais boxer contre un poids lourd que je peux taper, donc du coup que je peux maintenir à distance, que boxer contre un mec de 60 kilos que je peux pas fracasser parce que c'est pas le but, voilà, donc du coup je me fais toucher parce que je dois boxer avec mes atouts en moins. Et lui par contre, il peut faire valoir ses atouts. Mais ça, c'est un exercice magnifique. Je suis extrêmement fier de moi quand je finis. Même si j'en ai pris un peu plein la soupière, je suis fier de moi parce que je me dis, putain, je rentre, je me la suis collée. Et j'évalue l'après-midi que j'aurais pu passer à me toucher la bite sur mon canapé et à rien branler, à scroller. Et je me dis, putain, mais ouais, là, je me suis bougé le cul, donc il y a eu un gain de santé. Et puis, ça me garde des terres. Si tu veux, le fait de sortir pour aller couper du bois, le fait de sortir pour aller faire du rugby, le fait de sortir pour aller à la salle, le fait de sortir pour aller réaliser une activité qui est en premier lieu, ben te sort de ta léthargie. C'est toujours génial parce qu'il y a un gain. Il y a un gain de santé, il y a un gain de travail. Si tu allais couper du bois, ben en fait, tu as réalisé quelque chose qu'on réalise depuis des milliers d'années. Puis tu auras la fierté de te chauffer avec les bûches que tu as coupées. D'ailleurs, il y a un dicton espagnol que j'adore. Je ne sais pas si l'espagnol, mais il l'utilise en Espagne. C'est peut-être un truc qui est partagé par les Européens qui dit « Le bois chauffe deux fois, quand tu vas le couper et quand tu finis par le faire brûler. » Et je trouve ça magnifique. Ça, c'est un très, très beau dicton populaire. D'ailleurs, très souvent, les dictons populaires sont empreints de sagesse séculaire, mais il y a le côté, putain, l'effort en lui-même, même si sur l'instant, il est plus désagréable que boire un coup et rester sous la couette, il a un bienfait que tu ne soupçonnes pas. Et ça, si tu veux, quand tu rentres dans cette mécanique d'aller chercher le truc difficile, d'aller chercher la rusticité, d'aller chercher la rusticité, c'est quelque chose d'extrêmement noble. Et quand tu regardes, c'est l'apanage de quoi ? C'est l'apanage des forces spéciales, des sportifs de haut niveau, des gens qui vivent dans la liberté. La liberté, c'est l'inconfort. La liberté, c'est le sacrifice d'une partie de ton confort, mais du coup, en échange, tu reçois de l'élévation. Et aujourd'hui, regardez notre société. Pourquoi les gens sont désespérés? Ils ont le sentiment de vivre des sociétés, des vies vides et de passer à côté de la substance de la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est facilité. Et comme tout est facilité, je n'engage plus mon corps. Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de choses qui me font sentir vivant. La rusticité, la difficulté te fait te sentir vivant. Là, je vais parler de boxe, mais vous pouvez le sentir dans d'autres choses. Hein. Ça peut être, je sais pas, du triathlon, ça peut être une compétition de judo, de lutte. Attention, je parle de boxe parce que c'est quelque chose que je connais. Je dis pas que c'est au-dessus du reste. Hein. D'accord, vous pouvez le vivre de plein de façons différentes. Vous pouvez le vivre au rugby, vous pouvez le vivre dans plein de sports différents. D'accord, vous pouvez le vivre en faisant de l'alpinisme ou de la haute montagne. Il y a un moment où tu n'en peux plus. Et putain, tu vas chercher. T'sais. Tu dis à ton cerveau, allez, un pas de plus. Une minute de plus, une seconde de plus, un mètre de plus, 2 centimètres de plus, c'est l'enfer du dimanche. Quoi. C'est l'enfer du dimanche avec gros Al Pacino qui explique à des Afro-Américains de 2 mètres hein, que c'est le centimètre qui va faire la différence, les gars. C'est ce petit centimètre, centimètre après centimètre, ajouté au centimètre de votre collègue à côté, qui fera de vous l'homme victorieux ce soir. Ah, tu vois, mais moi, ça me parlait ces discours-là. Ça me parlait parce que c'est des trucs que j'ai eu le dimanche dans le vestiaire. Où t'as... Mais c'est ça qu'il y avait de merveilleux à l'ancienne, c'est que t'avais 14 ans, t'avais 10 balais et t'avais déjà des mecs avec les oreilles en chou-fleur, le nez pété, des dents qui manquent, qui commençaient à te presser d'être un homme accompli. Et ça fabriquait des jeunes hommes qui sont différents des jeunes hommes d'aujourd'hui. Voilà, je dis pas que toute la génération moderne est une génération de fils de pute, hein, mais il y en a beaucoup dans leur rang parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont passés à côté de la vie. C'est un truc que je vous dis et que je vous répète podcast après podcast, mais c'était important d'avoir ces mecs avec la gueule en chou-fleur. Là, je vous parle du sud-ouest, tu vois, avec la gueule en chou-fleur. Dans le vestiaire de Salota Saint-Gilles ou du BSR là, de Blagnac qui te chauffait parce qu'en fait t'étais qu'un enfant ou t'étais qu'un adolescent, mais t'avais déjà des missions, Tu avais déjà des missions et tu comprenais que la mission fait l'homme, que l'accomplissement de la mission fait l'homme. Pas l'accomplissement forcément victorieux, mais juste l'accomplissement. Juste d'être entré sur le terrain, de s'être chauffé en mettant des coups de casque dans le vestiaire et de finir par aller sur le terrain, donner le meilleur de toi-même. Et puis, ben si en face, c'est un arrière de Castres qui te met 50 points, comme ça a été le cas quand on y était allé en 2002 et qu'on avait pris une branlée au stade de la Méditerranée, on n'avait pas eu à rougir parce qu'on avait donné notre maximum. Les mecs en face étaient juste meilleurs. Voilà. Avec les collègues du BSR, voilà. Donc je sais pas s'ils écoutent les podcasts, mais il y en a quelques-uns à qui je passe le bonjour. Notre ami Robles, l'Allemand, parce qu'on avait tous des surnoms. Voilà, moi je me faisais appeler l'Espagnol, évidemment. Il y en a un qu'on appelait l'Allemand. Il y avait Pingu, il y avait Fufu, Fufu, Pingu, Robles. Est-ce que ça régale pas, quoi? Donc, si vous voulez, voilà, bon, mais je leur passe le bonjour, mais ils se rappellent, voilà, tu rentrais sur le terrain, bah, tu donnais le maximum, et puis bon, tu gagnais, c'était génial, tu perdais, t'avais quand même donné le maximum, donc en fait, pas de regret. Et puis, t'étais sorti, t'étais un centimètre plus grand, t'étais un kilo plus lourd. Ton âme, elle était une éternité plus longue, tu vois, voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans plein de choses. L'artisan, le tailleur de pierre, qui finit par finir cet escalier dans tel manoir du Gers et qui a rénové un escalier et c'est reparti pour 1500 ans à pouvoir marcher sur des marches correctes. Bon, ben lui, c'est pareil. Il sort de là, son âme, elle a pris un peu plus d'ampleur. Vous comprenez le truc? Et aujourd'hui, on est dans un siècle qui mutile les âmes. On est dans un siècle qui fait la plus grande des blessures, qui est celle d'amputer la psyché humaine et la grandeur et la vastitude que l'âme se doit de préempter dans la vie. Voilà. Et ça c'est le crime de la modernité absolue. C'est le crime de la modernité absolue. Et pour refuser ça, pour être dans le combat contre ça, il faut absolument que vous-même, de votre propre chef, vous fassiez la différence et vous imposiez d'aller chercher ce centimètre de plus, ce round de plus, Rocky, ce crochet, ce centimètre, cette seconde de plus qui te sépare de ton record personnel. Non mais, je rigole, mais c'est vrai, quoi. C'est comme ça qu'on va refabriquer des mecs qui vont être spirituels, qui auront un dialogue avec eux-mêmes. C'est comme ça qu'on va refaire des Français. C'est comme ça qu'on va refaire des mecs qui ont envie d'inventer le pâté en croûte. Quand on est sorti de la préhistoire, est-ce que tu crois que le premier truc qu'on s'est dit, c'est tiens, je vais inventer le pâté en croûte et l'armagnac? Bon, bien que l'armagnac soit vraisemblablement l'alcool le plus vieux du monde, merci les Gersois. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il y a des types, ils sont allés un petit peu au-delà de juste manger des carcasses d'animaux crevés dans la savane, parce que c'était ça en fait au début. Quand, si t'as regardé les comment ça s'appelle les. Si t'as regardé les documentaires sur la préhistoire, tu sais que c'est ça quand la préhistoire, ça démarre comme ça, on sortait des grottes, on mettait une leuleu à des gonzesses qui avaient du poil sur la fif, hein. Après on essayait de repérer s'il y avait un lion qui avait crevé une carcasse, hein. Après on jetait des pierres sur les vautours qui étaient en train de la démonter et on la mangeait, et on vivait comme ça, et on allait chier de la viande de rat crevé de la savane dans un coin sans se torcher. Bon, l'humanité elle a commencé comme ça, et puis un jour il y a un mec qui s'est dit putain, on pourrait quand même faire, en Bretagne là, il y a un mec qui s'est dit putain, on pourrait quand même faire un dolmen. Quand, je sais pas, on passe notre temps à chier quand, et à découper des peaux d'animaux crevés pour se faire des habits dégueulasses. Est-ce que ça on s'en sortirait pas un peu les doigts du cul quand, tu vois, il y a eu le premier entraîneur de rugby de l'histoire à la préhistoire. Le premier entraîneur de rugby à la préhistoire, quoi, qui est sorti, qui a fait « Ouais, putain, les gars, allez, je commence à vous chauffer. On va attraper cette grosse pierre, on va la mettre droite, là, ça ressemble à une bite. Et on va appeler ça un dolmen, quoi. » Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé avec une petite ambition. Il y a des mecs au tout début, quand on se torchait même pas, qui s'est dit putain, ça serait pas mal de se racler le cul avec quelque chose pour que ça arrête de sentir la vieille merdasse dans la grotte, tu vois. Et à partir de là, on a superposé les ambitions. Et on est toujours allé plus loin. Au début, ça a été bon, je vais essayer de l'offrir des fleurs à cette femme préhistorique, hein, avant de la démonter, tu vois. Voilà, et peu à peu, on a fait une société de plus en plus complexe, avec de plus en plus de défis. Nos habits se sont affinés, on a commencé à travailler le métal, on a commencé à optimiser notre vie. Et tout ça, on l'a fait parce qu'on s'est posé des questions, on ne s'est pas laissé porter. Mais de toute façon, tu pouvais pas te laisser porter parce que la nature, elle faisait toc-toc. Si tu mets pas une porte ou une palissade, il y a la tribu d'en face qui déboule, hein, et le toc-toc, ça va être violer toutes les femmes de ta tribu, te mettre des claques, te mettre un collier d'esclaves autour du cou, et tu finis par sucer des queues dans la grotte des mecs d'en face parce qu'ils étaient plus déterreux et qu'ils ont fait des flingues. D'accord, ils ont construit des flingues, les mecs. Tu vois, pendant que toi, t'es en train de rien branler et de regarder les nuages en digérant la viande de gnou que t'as volée à des vautours, tu vois, pendant ce temps-là, les mecs d'en face, ils étaient en train de se chauffer. Ils faisaient du développé couché, ils faisaient du grappling, ils faisaient des sparring, tu vois. Et ils ont déboulé dans ta grotte, ils ont enculé tout le monde. Parce que la vie est une vaste compétition, en fait. Et il y a tout un tas de fils de pute qui se laissent porter par le discours de gauche qui te dit stop à la compétition, laissez-vous porter, c'est bon, il y a des flics qui font 300 pompes qui vont vous protéger des racailles à votre place. Non, tu as une responsabilité. Dieu, il t'a pas mis sur terre pour que tu fasses office de pot de fleurs, fils de pute. Il t'a mis sur terre pour que tu réalises des choses, pour que tu te dépasses, pour que tu te sortes les tripes, pour que tu produises du beau, d'accord, à ton échelle. Et c'est facile de produire du beau. Les gauchistes, ils ont abandonné parce qu'après la difficulté, ils ont dit hey, moi, je m'en bats les couilles, moi. Hey, mais moi, ça sert à rien d'aller courir. Regarde-moi ce blaireau qui fait un footing. Ouais, fils de pute, mais tu vas crever à 50 ans avec la gueule grise parce que t'as fait que des roulées et des soirées de fils de pute à écouter du Renault, en fait. Voilà. Alors que le mec en face, eh ben, il se tient, il y a du maintien. Donc en fait, il vit dans une baraque qui pue pas la merde, hein, tu vois. Il lave son slip. Donc en fait, comme il pue pas du chibre, eh ben, il a des débouchés, tu vois, quand il serre la main aux gens. Les gens sont pas en train de se demander ce que le dépôt qu'on a laissé dans la paume de leur main, tu vois. Donc du coup, il le recontacte. Hein. Voilà, ça tient à des petites choses comme ça, en fait. Donc la moindre petite ambition vous sort de la préhistoire. C'est parce qu'on a eu de l'ambition, c'est parce qu'on a eu de l'ambition qu'on finit par avoir produit des innovations comme par exemple le micro et Internet, ce qui permet aux communistes de venir faire leur... Vous savez, les gauchos, je vous mets au défi de me trouver un gaucho qui ne se sert pas d'outils qui ont été fabriqués par la compétition, donc en fait par l'esprit de domination, pour répandre leurs idées. C'est parce qu'il y a eu à un moment la nécessité de mieux parler aux gens pour faire écouter des discours, pour organiser ton pays, qu'on a inventé des micros. Enfin, c'est un exemple que je donne, j'en sais rien, tu vois. Voilà. Et les mecs s'en servent pour dire « Ouais, le nationalisme, c'est nul. » Mais fils de pute, en fait, à la base de tous les trucs que tu aimes, il y a un mec énervé contre un autre mec énervé qui se sont fait la guerre pour savoir qui aurait le plus gros micro ou qui aurait le plus gros missile ou qui aurait le plus gros Internet, en fait. Et la vie n'est qu'une vaste compétition. Et si tu t'en extrais, tu vas finir comme les anciens hommes préhistoriques qui sont contentés de regarder les nuages après avoir digéré de la viande. Tu seras l'esclave d'autres hommes préhistoriques qui, eux, vont bâtir une civilisation. Il y a des civilisations dont on n'a jamais entendu parler parce qu'ils fumaient des bédos et qu'il y a des mecs qui sont arrivés qui faisaient des pompes qui leur ont mis des claques et des levrettes à leur gonzesse, en fait. Et vous n'en entendrez jamais parler. Ce sont des peuples dont vous n'entendrez jamais parler. Parce qu'ils ont fait dodo quand ils étaient en train de faire la sieste. Hein. Ils étaient aux toilettes alors que la vie leur donnait rendez-vous, tu vois. Et en face, t'avais des Cimériens, tu vois. T'avais des Sumériens, t'avais des Babyloniens, t'avais des Grecs, des Spartiates, t'avais des Romains, t'avais des Gaulois, t'avais des gonzes comme ça, tu vois. Voilà. Et eux, ils ont marqué l'histoire parce qu'à un moment, il y a eu du... Tu vois, ils s'y sont filés. Les Gaulois, ils avaient des espèces de trompes en bronze ou en cuivre, là. Pour foutre la trouille à leurs ennemis. Quand t'arrivais une bataille avec des Gaulois, le premier truc que t'entendais, c'était des espèces de gigantesques corps en bronze et ça faisait des... Voilà, tu sais. Donc la campagne de Gaulle, c'est des gonzes, ils sont arrivés. T'avais des gonzes à poil, peints en bleu, qui étaient en train de souffler dans les trompettes, quoi. Tu vois, bienvenue dans la feria, quoi. Même, vous voyez ce que je veux dire ? Donc si vous voulez se sortir les doigts du cul... C'est pas un choix de vie, c'est une nécessité. C'est une nécessité spirituelle. On est destiné à ça. Mais comme on peut pas être des surhommes, on peut pas être des dieux, ben Dieu il a mis en nous l'autre partie qui te dit ben non mec, allez, fume un bédo, ben mange un cordon bleu, fini obèse, skinny fat. Vous connaissez ces mecs-là là, qui, à partir de 30 ans, ne font que se blesser, ils font que tomber malade, ça va pas, leurs gonzesses les quittent, hein, ils ont des bagnoles de merde, ils ont des vies de merde, mais parce qu'en fait, ils n'ont jamais forcé. Ça arrive hein, d'avoir des couilles dans la vie. Hein. Moi, j'avais des problèmes tout le temps avec ma putain de 406, tu vois. Mais à côté de ça, si tu veux, j'avais des réalisations parce que je m'y filais. Les mecs, t'as l'impression que tout leur tombe sur la gueule, mais parce que t'es une merde. Tu t'échappes, donc la vie, elle s'intéresse plus à toi. Donc elle s'intéresse plus à toi, donc elle n'a plus rien à t'amener. Et c'est ça qu'il y a de terrible, en fait. Et tu as toute une part de la génération moderne qui n'a pas ce truc-là, qui n'a pas cette envie, putain, d'aller conquérir, d'aller vivre, d'être quelque chose, bordel. D'arrêter d'être une sale merde avec une coiffure de brocoli, je vous supporte plus. Et vous faites les mêmes trends Instagram de merde, avec vos gueules de fils de pute sans relief, là. Putain, on sent que vous prenez pas le soleil, vous prenez pas de patates, hein. Vous faites rien, quand. Vous êtes des minicums. La modernité, elle a mis son bras dans vos culs, et elle vous fait parler, elle vous fait répéter tous la même chose. Et vous avez tous le même discours, vous êtes infâme. Vous êtes infâme, vous avez plus aucune vie intérieure, vous êtes des putains de robots, con. Et vous voulez les mêmes trucs et consommer la même merde. Et je vous supporte plus, con. Je vous supporte plus, j'ai envie que... Putain, j'ai envie que Macron, il réussisse, con. J'ai envie que Macron, il réussisse à la faire, sa guerre, pour qu'il envoie tous ses fils de pute à tête de chou-fleur se faire exploser la FIF au AK-47, là, sur le front russe, con. Putain, on va respirer, après, il n'y aura plus de trend d'Instagram de merde, et puis ils auront un truc à raconter quand ils rentreront de la guerre. Évidemment que non, évidemment que je ne suis pas pour cette guerre que veut absolument Macron, mais j'en parlerai avec mon compère... Le Raptor, dans la prochaine émission que nous ferons, nous reviendrons sur ça. Hein. Je ne l'aborde pas dans ce podcast à dessein pour pouvoir l'aborder avec lui quand on fera le prochain Raptor X Papacito. Bref. Et voilà, et je ne sais pas. Et avant, en plus, ce côté tonitruant, ce côté cavalier, ce côté substantiel, ce côté truculent, tonitruant. Mais ça, c'était un truc qu'il y avait vachement avant, quand les individus n'étaient pas vides et qu'ils avaient fait des parcours pour eux-mêmes et pas pour les autres. Mais vous aviez des individus, mais la société était beaucoup plus saine. Là, récemment, je parlais à un pote, mais hier soir, hein, pas récemment, mais hier soir, je parlais à mon pote de souvenirs que j'avais du Sud-Ouest, donc des années 90, où il y avait des personnages qui avaient de l'emphase oratoire. Mais t'avais l'impression d'être au théâtre. Parce que les mecs mettaient de l'engagement physique, émotionnel. Ils étaient présents dans leur corps. Il y avait une présence dans l'incarnation. C'était des personnages qui avaient roulé leur bosse. Donc il y avait une corrélation entre l'âme et la chair. Et entre la chair et l'âme. C'était des mecs entiers, si tu veux. Et aujourd'hui, on a désespérément perdu ces profils-là. Parce que vous n'avez plus de gens qui vont vers cette. Qui vont vers la difficulté, vers ce chemin de vie où tu prends des positions, tu t'ancres, tu te fais mal, tu te mets à l'épreuve, tu te rayes. Tu te rayes, bordel. Il faut se rayer un peu la peau, quoi. Voilà, faut se rayer. Faut se rayer pour rentrer dans la vie, quoi. Faut que, tu sais, c'est comme un truc tout neuf, au bout d'un moment, tu le rayes. Tu peux plus le ramener au magasin parce que tu l'as rayé. Le problème, c'est que la moitié des fils de pute qui m'entourent, tu peux les ramener au magasin, ils n'ont pas été utilisés. Il y a encore l'emballage et la notice, quoi. Personne s'en est servi. Personne s'en est servi, même pas eux-mêmes. Ils se sont pas servis d'eux-mêmes. Donc je lui disais, j'avais un souvenir comme ça qui était revenu. Il y avait un maire, donc à Plaisance-du-Touche, c'est une des villes dans lesquelles j'ai grandi. Il y avait le maire de Plaisance-du-Touche qui s'était fait alpaguer comme ça par un mec de, vous savez, le mec classe moyenne pauvre des années 90 qui roule avec une bagnole du début des années 80, voire de la fin des années 70, qui a pas trop la forme, qui boit des Ricard et tout, qui est au bout du rouleau, tu vois. Et putain, il avait alpagué le maire de Plaisance-du-Touche, j'y ai fait. Parce qu'à l'époque, en plus, comme les personnages étaient entiers, qui avaient de la testo, si tu veux, les interactions étaient plus couillues. Ça allait plus loin. C'était plus pénétrant, tu vois. Et en fait, le gonze, il avait attrapé le maire de Plaisance-du-Touche. Il l'avait pas attrapé physiquement, mais il était très, très près de lui. Et il y avait eu le « Eh ?» T'es un enculé, quand tu t'en es mis plein les fouilles, comme un enculé. Il y avait des enculés à 20 cm d'un élu de la République. Mais ça régalait, con. Mais ça régalait, tu vois. T'avais beau être maire, je sais pas quoi, le pacte républicain de mes couilles, hein, il y avait un putain de d'ouvrier alpha qui pouvait t'attraper par le callback et te dire tes quatre vérités. Parce qu'évidemment, le maire de Plaisance-du-Touche de l'époque, il magouillait. Et il y avait pas Internet, mais tout se savait. On savait avec qui il était pote. On savait qu'il y avait des petits conflits d'intérêts. On le savait. Les gens le savaient. C'était des micro-sociétés à échelle humaine. Ce que me disait mon potier, il me dit c'était encore à échelle humaine. Donc en fait, les mecs se connaissaient leurs petites affaires. Donc le type avait alpagué le maire. Eh, enculé. Tu sais, puis t'avais l'enculé bien articulé, bien profond. Ça, c'était un enculé. C'était généreux. Tu vois, c'était pas un enculé de ouais, enculé, va. Un peu de loin comme ça, c'était enculé, va, à 20 cm du visage. Tu vois, c'est-à-dire que le mec, il avait pratiquement l'image dans les yeux. Tu vois, il se voyait en train de se faire tamponner le voilier à vapeur, tu vois. Et ça me régalait quand j'étais gosse. Quand il y avait une embrouille d'adulte, tu regardais ça, tu dis oh putain, ça va partir, tu vois, ça va partir. Et paradoxalement, c'était une société où il y avait moins de tension. Il y avait plus d'irruptivité de testo et donc en fait de violence. Mais il y avait moins de tension, mais justement parce que ça sortait. Les mecs arrivaient à faire sortir les conflits. Donc tu avais un moment, voilà, ça explosait, et puis si ça se mettait pas sur la gueule, ça allait mieux. Et puis t'avais des mecs qui étaient allés hyper loin les uns avec les autres, et puis ça finissait par des « Ouais, excuse-moi, écoute, à un moment, j'ai perdu pied, je t'ai traité d'enculé, bon, tu vois, des trucs comme ça, en fait. » Alors qu'aujourd'hui, si tu prends un élu de la République de merde, là, et que tu lui dis « Putain, tu t'en es plein de fouille, t'es corrompu, t'es vraiment enculé, quand, hein ?» Eh, tu t'en es foutu plein, mais devant tout le monde, tu vois, ça faisait du bien, ça, tu vois. Les Christian Urgal, ils s'en sortaient pas comme ça. T'avais des mecs qui arrivaient, qui les attrapaient par le col, leur disaient leurs quatre vérités, tu vois. Tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Puis, attention, hein. Il y a la police scientifique, c'était que pour les trucs, si t'avais fait un peu le filou, tu te faisais rapidement éclater, hein. C'était une époque aussi où les gens passaient à l'action, hein. Il y en avait des mecs, hein, dans les campagnes qui prenaient des patates dans la gueule à 2h30 de samedi soir en rentrant chez eux. Et donc, je me rappelle, il y avait eu ce truc. Et le maire, parce que, évidemment, t'avais des mecs qui étaient vachement tonitruants, qui étaient vachement comme ça, engagés et tout. Mais chez les élus, c'était autre chose. C'est-à-dire que oui, c'était déjà des enculés comme maintenant. Mais au moins, ils avaient la politesse d'être des enculés avec de l'emphase. D'être des enculés avec de la magnificence. Tu vois, c'était des enculés magnifiques. C'était pas du petit enculé industriel d'aujourd'hui. C'était de l'enculé d'artisanal, tu vois. C'était de l'enculé local. C'était de l'enculé bio. Tu vois, c'était de l'enculé. Le mec, c'était un enculé, mais il avait sa forme de beauté, tu vois. Il avait sa forme de magnificence, tu vois. Donc, le maire, tu sais, ça partait dans des voix très haut perché. Donc, le mec a répondu, mais oui, je suis un bandit. Évidemment, monsieur Fontas. Évidemment, j'ai mis de l'argent dans des sacs et ils sont cachés sous mes oreillers. Évidemment. Et ça partait dans des phrases comme... Mais ça régalait. Tout le monde était un personnage de théâtre du 19e, en fait. Tout le monde était un cadet de Gascogne. Alors, je sais pas dans les autres régions, mais c'était très certainement pareil. Dans les autres régions, t'avais des personnages comme ça, tu vois. T'avais des mecs avec leurs particularismes locaux, sans doute, en Bretagne et je sais pas où. Tu vois, t'avais des mecs comme ça et ça manque. Aujourd'hui, tout le monde est un PNJ de merde encodé comment ils s'appellent, là, les entreprises de jeux vidéo, quoi. T'as vraiment l'impression de ça. T'as vraiment l'impression d'avoir des types qui sont des copier-coller les uns les autres, qui tiennent les mêmes discours. Quand t'écoutes les enculés là de politiciens de merde et l'arc républicain et la République, et l'appel à la haine, ferme ta gueule. Est-ce que tes couilles elles sont arrivées dans un kit à part de toi-même, fils de pute? Ça te dirait pas d'être vivant? Mais à droite comme à gauche. À droite comme à gauche, les vidéos de Bardella, soi-disant représentant et émissaire de la France éternelle, d'accord, que le mec a jamais travaillé de sa vie, il a une raie sur le côté, c'est Macron qui aime pas les Arabes, en fait, hein, c'est juste ça. Hein. Ce mec-là, il est catastrophique. Le salon de l'agriculture, Bardella au salon de l'agriculture, c'est catastrophique. C'est catastrophique, on dirait un PD qui va faire son marché bio, quand. Le ferment, ça change tout. Vous l'avez vu cet extrait, c'est dégueulasse. Il est avec sa petite cravate, avec son col de fils de pute tout fin là, parce qu'il s'habille chez Devred, c'est enculé. Il met des espèces de doudounes sans manches toutes fines qui servent pas. Mets une doudoune de camionneur. Va jusqu'au bout, fils de pute. Si tu mets une doudoune, mets une énorme doudoune avec une manche, une chemise à carreaux en dessous, quoi. Sois un putain de trucker, mais pas des doudounes de fils de pute qui te vendent des contrats avec des trucs écrits en petit, tu vois, dedans. Bordel. Et le ferment, et ça change tout. Et ben alors, oh Bardella, tu vis à Versailles, hein, t'es un favori à perruque, qu'est-ce qui se passe, quand? Et c'est ça qui doit sauver la France éternelle, c'est ça qui doit refabriquer les Cyrano, qui doit refaire les Carcassonne, qui doit refaire les châteaux de Lastours, qui doit refaire les châteaux d'If. Les châteaux de falaise, c'est ça, quand, qui va nous ramener Guillaume le Conquérant, gros baillard, là, sur le pont, là, du Garigliano, là. Est-ce que c'est ça qui va nous le ramener? Mais vous savez pertinemment que non! Vous savez pertinemment que non, c'est pour ça, ça vous fait rire quand je dis oui, ça c'est gay. Mais parce que la seule politique qui vaille, c'est le Christ, c'est arrêter de faire des trucs de PD, quand. Tu vois? Et c'était la principale consigne dans la France dans laquelle j'ai grandi. Pour tout! Ça s'adaptait pour tout! Tu voulais pas manger un truc, quand tu disais, hey, fais pas le PD, avale-moi ça, quand. Et du coup, tu avalais, tu disais, putain, c'est bon le pâté avec des morceaux d'organes de porc dedans, tu vois. Voilà. Tu disais, ah, j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie d'être pillé, j'ai envie de jouer. Et arrête de faire le PD et enfile ce maillot avec ton numéro 3, là. Voilà, tu vois. Et ben, tu le faisais, quand. Des fois, tu te faisais le palier, hey, ça va les PD, alors, bon, et puis tu te bougeais le cul, quand. Ça faisait partie du truc. Ça faisait partie du truc et c'était magnifique. C'était magnifique. Il n'y avait qu'une seule consigne, il fallait arrêter de faire des trucs de PD, mais en fait, c'est depuis le début de l'humanité que c'est comme ça. Tu vois, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure des putains d'hommes préhistoriques qui zonnent comme des fils de pute de zadistes dans leur caverne, en fait. Il y a des mecs qui sont arrivés qui ont dit « Oh, qu'est-ce que vous faites, bande de PD, vous dormez, vous faites la sieste, nous on est en train d'éclater des mammouths !» Donc du coup, on court vite, on est musclé, on est déter, on a fait des poussées de testo. Parce qu'en fait, la nature, elle s'adapte. Quand tu te la colles contre des mammouths, elle t'envoie de la testo, tu vois. Donc tu bandes plus dur, t'es plus concerné, t'es plus présent, tu vois. Voilà, donc quand tu mets un coup de sagaie, c'est pas comme la tribu de cueilleurs. Tu vois, t'as les tribus, ils chassaient les mammouths, t'as les autres, ils cueillaient, tu vois. Bon, mais les gonzes qui cueillaient, à mon avis, ils tapinaient pour les autres, hein, tu vois. Ça m'étonnerait que les mecs qui cueillent, ça m'étonnerait que les mecs qui ramassent des prunes sur les arbres, ils finissent par être plus déter que la tribu qui mettait des grands coups là de tomahawk dans la fif des rhinocéros laineux de la plaine de Dordogne, d'accord. Qu'est-ce qui se passe quand? Qu'est-ce qui se passe? Bon, le dernier animal laineux que je connais de Dordogne, il joue à Colomiers. Je lui passe bonjour. Bon, bref, c'est une private joke. Bon, bref, et voilà, c'est tout, quand. C'est tout. Faut arrêter de s'échapper. Les mecs, ils sont là, oui, alors quelle va être notre politique en... Arrêtez de vous échapper! Il y a un mec qui vient des contrées barbaresques et qui fait le fou, tu lui mets un coup de tronche. Tu vois, mais à échelle civilisationnelle, à échelle sociale. Et après, il arrête de faire le fifou. Parce que t'as pas fait le PD, t'as pas fait l'assistante. Tu vois. Le problème, c'est qu'en un pays d'assistante, tout le monde est un assistant, en fait. Tout le monde est assisté, tout le monde est un assistant. Mais alors, attends, est-ce que tu crois pas que dans ton enfance... Ferme ta gueule. La putain de bataille de chars à Koursk, quand. Est-ce que tu crois que les Schleux et les Ruskov se sont demandés entre eux s'ils avaient eu des enfants difficiles? Non, ils sont contentés de ne pas être pédés. C'est la consigne principale. Et elle n'a pas changé depuis le début de l'histoire de l'humanité. D'accord? Celui qui est gay, qui fait le gay, je ne parle pas au niveau sexuel, je parle au niveau, vous avez compris. Celui qui fait la tarlouse, hein, il finit par être à quatre pattes. Et celui qui s'y file, il n'est pas à quatre pattes. Hein. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous propose de comparer la France de 1099 qui plante un gros drapeau à fleur de lys sur les hauteurs de Jérusalem et la France d'aujourd'hui où il y a Yacine Bellatar qui vient de t'insulter à la télé. Il faut qu'il garde son passeport français, enfin son passeport républicain, parce que passeport français il l'aura jamais, c'est un passeport républicain qu'il a. Bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc. La consigne, elle est simple. Arrêtez de vous échapper. Et ça, je parle à la jeunesse. Filez-vous-y, con. Filez-vous-y. Dans un domaine. Et puis après, vous étendez à d'autres domaines. Au début, tu t'y files dans un truc de gogol. Et puis après, tu affines. Voilà. Arrêtez de vous échapper, putain. Maintenant, tout le monde a peur des chiens. Tout le monde a peur des idées. Tout le monde a peur de l'effort physique. Et mets un casque. Et attends, je vais te mettre un truc de protection pour pas que tu te fasses bobo. Et à la fin, t'as une pédale, quand. À la fin, t'as élevé une limace. À la fin, la France, c'est une gigantesque forêt sous la pluie, quand. T'as que des énormes limaces qui grimpent partout. Putain. Est-ce qu'on peut faire revenir le soleil et les mammifères avec des colonnes vertébrales? Est-ce que c'est possible? Putain, tout le monde s'échappe, c'est invivable. C'est invivable. Les gens ne se disent plus les vérités entre eux, alors ils vont se venger sur Internet. Mais c'est infernal, on est en train d'accoucher d'une société de merde, avec une ambiance de merde. Les gens prennent plus la parole, ils osent plus. Moi, dans mes DM, là, c'est rempli de mecs qui ont de l'exposition, qui me disent « J'adore ce que tu fais, mais je peux pas faire un truc avec toi parce que quand même, c'est borderline. » Ouais, ouais, mais est-ce que l'histoire de France, ça a été borderline? Est-ce que tu crois que quand les mousquetaires, ils grimpaient sur des remparts espagnols de 15 mètres pour aller se la filer contre Rodrigo et Pedro, est-ce que c'était borderline? Est-ce que les Français, là, les Malouins, quand ils allaient se la filer contre des frégates anglaises et que t'avais des boulets de canon qui étaient reliés entre eux par des chaînes et que ça découpait des types en deux, est-ce que c'était borderline? Est-ce que les grosses charges de François Ier dans les guerres d'Italie, là, avec tous les Gersois, là, avec les comtes, avec les comment ça s'appelle, l'autre là, le Gersois, bon, ça me reviendra. J'ai oublié son blaze. Est-ce que tu crois que c'était borderline? Avec un mur de mousquet en face et d'espadres avec des piques. Est-ce que tu crois que ça s'y file? Vous me faites rire. Oui, il faudrait que la France redevienne la France. Mais la France, c'est la France parce que c'est de la testo! Parce que c'est de la tonitruance. Parce qu'on a des couilles. Parce qu'on a un truc à défendre. Aujourd'hui, les mecs, ils veulent un résultat, donc ils sont pas capables de produire les causes. Vous êtes pas capables de produire les causes et des résultats que vous attendez. Vous voulez la France de Richelieu et vous vous comportez comme des mecs qui veulent voir au pouvoir Bardella, con. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous voulez la France de Raymond de Saint-Gilles, de Godefroy de Bouillon, de Tancrède et de Bohémond, tu vois. Et putain, vous vivez et vous consommez et vous parlez et vous avez peur comme des mecs qui méritent la France qu'ils ont. C'est-à-dire la France de Macron, LFI, Delogu et Manon Aubry et de, comment il s'appelle, et de Bardella et de tous ces gens-là. Là. Et le ferment, ça change tout. Et le ferment, ça change tout. Et le ferment, ça change tout, d'accord. Votez pour moi, on va mettre dehors les Arabes. Dehors les Arabes. Et oh les Arabes, écoutez-moi bien. Vous allez savoir de quel bois je me chauffe. Maintenant, vous allez partir et vous allez arrêter d'être des criminels intrinsèquement, d'accord ? Parce que sinon, je vais me fâcher, ok ? Et je vais mettre du ferment dans ma politique et ça va changer tout. Espèce de gros PD ! Ils sont où les chefs à l'ancienne, là, de la guerre de 100 ans, qui font des chevauchés à cheval, qui sont près du peuple, les Henri IV, là, qui mangent de la poule au pot et qui déboîtent des bouteilles d'Armagnac ? Ils sont où, ces mecs-là ? J'en ai marre d'être dirigé par des enfants, par des adolescents avec des corps de merde, quoi. J'ai envie de voir des gros, là, des putain, des dirigeants avec des surcharges pondérales. Poutine, j'ai vu une vidéo de Poutine, il y a une meuf qui lui parle, il lui dit « ta gueule » pendant l'hymne russe. Il lui dit de la fermer, quoi. Est-ce que vous voulez que je vous parle de notre président ? Est-ce que la femme de Poutine, elle s'appelle Jean-Sergueï ? Et Alain Mandrin, non. Vous avez les dirigeants que vous méritez parce que vous produisez la France que vous produisez. Parce que oui, sur Internet, ça y va, on y va. Dans le réel, qu'est-ce qui se passe ? Dans le réel, qu'est-ce qui se passe ? Ben, pas grand-chose, malheureusement. Pas grand-chose. Je parle juste d'assumer ses idées. Hein. Il y en a plein qui sont en mode « J'adore ce que tu fais, mais... » Je peux pas trop assumer parce que... Ouais, mais je suis d'accord avec toi, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais en fait, si t'assumes tes idées, ça change tout. Donc, il va falloir se remettre en question un petit peu, là, pour les mecs qui sont en mode, oui, j'aime bien ce que tu fais, mais ta gueule, en fait. Moi, je veux pas de rétribution. Assume ton discours, assume ce que tu penses, putain. Si on est plein à assumer, c'est parce que il y a tout un tas de gars qui ont fait le travail de porter un discours, de pas le renier, de l'assumer. On n'est pas beaucoup au début. Hein. Là, maintenant, ça s'engouffre dans la brèche. On n'était pas beaucoup au début hein, à assumer un discours. Hein. Et c'est quand on a bien défoncé les portes, quand on a bien mis les coups de boutoir qu'il fallait, que tu as toute une armée qui s'est engouffrée. Bon, mais n'attendez pas que tout le monde ait fait le boulot. Est-ce qu'on n'aurait pas dû attaquer le château dès le départ, tous ensemble ? Le château de la modernité, de la post-modernité même. Si on l'avait attaqué tous ensemble au tout début, on aurait gagné du temps. Là, ça y est, il y a des mecs qui commencent doucement à sortir de la léthargie et du silence. Mais il fallait faire ça il y a extrêmement longtemps. Les gars. Il y a très, très longtemps, il fallait faire ça. Très, très, très longtemps. Là, on a perdu un temps énorme. Énorme. C'est catastrophique. Enfin bref, c'est comme ça les amis, c'est comme ça, bon, le vent est en train de tourner, les gens se réveillent, il y a un retour vers Dieu, je constate qu'il y a de plus en plus de licenciés en boxe et tout ça, c'est une très très bonne chose. Il y a un regain d'intérêt comme ça, il y a un retour pour les trucs stylés, c'est très très bien, mais pas que la boxe, je vous le dis encore une fois, c'est parce que c'est le sport que j'aime, mais voilà. Que les gens retournent au rugby, que les gens retournent à la terre, que les gens retournent à l'artisanat, que les gens retournent aux choses qui ont de la valeur, de la vraie valeur. Voilà les amis, c'était le cri du cœur. Et enculé de merde, tu t'en fous plein les fouilles, toi et tes copains, enculé, va. Mais ça vous ferait pas du bien de recommencer à vivre dans une France comme ça, là ? Où t'as des mecs qui se font attraper par le gol et il y a un gonze, là, avec une dégaine de prolo des années 90, avec un paquet de Malbec dans les poches de son manteau trop grand qui lui fait enculé, va. Vous avez pas envie de leur dire ça aux politiciens actuellement ? Enculé, va. Tu vois, les Mélenchons qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui viennent donner des leçons, mais enculé, quoi. Hein, t'es un bon enculé, toi, hein. Ah putain, quand. Les amis, retrouvez-moi en live sur mon Patreon. Le lien de mon Patreon est sur mon Instagram, Hugo Gigimenez sur Instagram. En bio, vous avez le lien de mon Patreon. Vous pouvez également retrouver mes productions, que ce soit en termes de bande dessinée ou de livres, aux éditions Magnus. Et vous pouvez aussi également suivre mon travail dans votre kiosque, dans le kiosque le plus près de chez vous, via le trimestriel La Furia, où j'écris des articles qui vont bien plus loin que ce que je dis en podcast, sous peine de faire sauter ma chaîne. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, redevenez des individus vivants, remettez-vous à assumer, redonnez-vous la légitimité de parler en faisant les sacrifices que ça demande pour revenir triomphalement sur votre cheval blanc, professer les grandes vérités de ce monde. Et je vous dis à très bientôt. Je pense que vous aurez un Raptor X Papacito très prochainement, puisqu'on en a discuté avec le Raptor. Donc, vous voyez, on produit pour votre plus grand plaisir, mais il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que vous traduisiez tout ce travail et toute cette adhésion que vous avez dans le réel. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.